Chapitre 8. Plusieurs semaines passèrent, durant lesquelles Martin Eden étudia sa grammaire, potassa les guides de savoir-vivre et lut avec voracité tous les livres qui lui faisaient envie. Il ne voyait plus les gens de sa classe. Les filles du Lotus Club se demandaient ce qu'il était devenu et harcelaient Jim de questions, alors que certains de ceux qui avaient croisé les gants chez Riley se réjouissaient qu'il ne vînt plus. Il découvrit une nouvelle mine d'or à la bibliothèque. De même que la grammaire lui avait montré les articulations du langage, de même ce livre lui enseigna les principes de la poésie. Comprenant enfin le pourquoi et le comment de la beauté qui le séduisait tant, il se mit à étudier la versification. Il dénicha aussi un traité récent qui analysait l'art poétique en profondeur, illustré de nombreux morceaux choisis de la meilleure veine. Jamais un roman ne lui avait paru aussi passionnant que ses livres. Son esprit neuf, resté vierge pendant 20 ans et aiguillonné par la maturité du désir, se jetait dans l'étude avec une ardeur virile qui eût surpris plus d'un universitaire. Quand il se retournait sur son passé, l'univers qu'il avait connu, celui de la mer et des bateaux, des marins et des harengères, lui semblait tout petit. Cependant, l'ancien monde se mêlait au nouveau. Il cherchait à les réunifier par l'esprit et découvrait avec surprise qu'il existait entre eux des points de contact. Ennobli par l'élévation et la beauté qu'il trouvait dans les livres, il était de plus en plus convaincu que les hautes pensées étaient l'apanage de la haute société et croyait que tous les hommes et femmes de la bourgeoisie, comme Ruth et sa famille, pensaient et vivaient ainsi. Les bas-fonds étaient le règne de l'impur et il voulait se purger de l'ignominie qui avait souillé ses jours pour se hisser vers le sublime royaume que hantaient les classes supérieures. Durant toute son enfance et sa jeunesse, il avait été tiraillé par un sentiment indéfini de manque. Il n'avait jamais su ce qu'il voulait et l'avait cherché en vain jusqu'à sa rencontre avec Ruth. À présent, ce manque était plus poignant, plus douloureux, parce qu'il savait enfin avec certitude ce qu'il voulait, la beauté, l'intellectualité et l'amour. Au cours de ces quelques semaines, il vit Ruth une demi-douzaine de fois, et chaque entrevue l'inspira davantage. Elle l'aidait à parfaire son anglais, corrigeait sa prononciation et l'initiait à l'arithmétique. Mais leur rapport ne se limitait pas aux études élémentaires. Il connaissait trop la vie et son esprit était trop mûr pour se satisfaire de fractions, de racines cubiques, de grammaire ou d'analyse logique, et il arrivait que leur conversation dérivât vers d'autres thèmes. Les derniers poèmes qu'il avait lus, les derniers poètes qu'elle avait étudiés. Et quand elle lui lisait ses passages favoris, il touchait à l'extase. Jamais il n'avait entendu de voix semblable à la sienne. Sa moindre intonation excitait son amour et il frémissait à chaque mot qu'elle prononçait. La musicalité de ses inflexions, ce riche et indéfinissable produit de la culture unie à la bonté d'âme, le transportait. Et tandis qu'il l'écoutait, dans sa mémoire résonnaient les cris aigres des souillons et des pochardes, les voix stridentes des ouvrières et des filles de son rang. Il voyait toutes leurs troupes défiler devant ses yeux, et chacune d'elles rehaussait par contraste les splendeurs de route. Mais ce qui surtout le comblait d'aise, c'était de se dire qu'il comprenait ce qu'elle lisait, qu'il partageait les mêmes émotions et les mêmes pensées. Elle lui lut de longs extraits de la princesse, et il vit souvent ses yeux se mouiller de larmes, tant était sensible son tempérament d'esthète. Dans ces moments-là, il se prenait pour un dieu et croyait déchiffrer le secret ultime de la vie dans la contemplation de son visage. Alors, conscient des hauteurs qu'il atteignait, il devina qu'il s'agissait d'amour et décréta que l'amour était la plus belle chose au monde. Dans les couloirs de ses souvenirs, il visita ses anciens frissons, ses anciennes brûlures, le vertige du vin, la caresse des femmes, l'ivresse de la dépense physique et des corps à corps, et les trouva futiles et misérables en comparaison de la sublime ardeur qu'il éprouvait maintenant. Pour Ruth, la situation était plus confuse. Les expériences du cœur étaient nouvelles pour elle, qui n'avait vécu ces choses que dans les livres, où les faits les plus ordinaires étaient transposés par l'imagination dans un royaume irréel et féerique. Elle ne comprenait pas que ce rude marin s'insinuait dans son cœur pour y engranger des bombes à retardement qui l'embraseraient un jour. Elle ignorait ce qu'était le vrai feu de l'amour, Elle n'en avait qu'une connaissance purement théorique et le concevait à l'image d'une flamme rampante, légère comme la rosée du soir ou le froissement d'une eau tranquille, douce comme le velours sombre d'une nuit d'été. Son idée de l'amour s'apparentait plutôt à une affection placide dans une atmosphère parfumée et tamisée, à un paisible dévouement dans un calme céleste. Elle n'en imaginait pas les convulsions volcaniques, les incandescences dévastatrices, les déserts de cendres. Elle ne se doutait ni des forces qui dormaient en elle, ni de celles qui sous-tendaient le monde. Et les profondeurs de la vie étaient pour elle des océans d'illusions. L'affection conjugale de son père et de sa mère constituait à ses yeux l'idéal des affinités électives, et elle attendait avec confiance le jour où, sans heurts et sans douleur, une inclination semblable la conduirait à partager l'existence d'un être cher. Aussi regardait-elle Martin Eden comme un individu d'une espèce étrange et nouvelle, attribuant à cette étrangeté et à cette nouveauté l'effet qu'il produisait sur elle. C'était tout naturel. N'avait-elle pas déjà éprouvé ce même sentiment d'étrangeté devant les animaux sauvages de la ménagerie, devant le spectacle d'une tempête ou l'éblouissant fracas d'un orage? Il y avait quelque chose de cosmique dans ces phénomènes, et il y avait quelque chose de cosmique en lui. Il lui apportait l'air du large et des grands espaces. Le soleil des tropiques avait teinté son visage et dans ses muscles palpitait la vigueur originelle de la vie. Il portait dans sa chair les cicatrices de ce monde mystérieux de l'action, peuplé d'hommes rudes, dont le territoire s'étendait au-delà de tout horizon connu d'elle. Il était sauvage et farouche, mais il venait manger dans sa main et, secrètement flattée de son pouvoir, elle était tentée d'apprivoiser la bête. C'était une tentation inconsciente. Et plus inconscient encore était son désir de le remodeler, de façonner sa glaise à l'image de son père, car il ne pouvait y avoir de plus belle image que celle-là. Comment eût-elle su, dans son inexpérience, que cette sensation cosmique qu'il lui transmettait était le travail de l'amour, l'attraction universelle qui poussait les hommes et les femmes du monde entier à se rejoindre, les serres à s'entretuer à la saison du rut et les éléments eux-mêmes à s'unir. Ces rapides progrès étaient pour elle une source de surprise et d'intérêt. Elle décelait en lui un raffinement insoupçonné qui semblait s'épanouir, jour après jour, comme des pousses de fleurs sur un terreau fertile. Elle lui lisait du Browning et s'étonnait parfois des curieuses interprétations qu'il donnait de certains passages controversés. En vérité, fort de son expérience des hommes, des femmes et de la vie, il en avait souvent une perception plus juste que la sienne. De temps en temps, l'apparente naïveté de ses conceptions faisait place à une clairvoyance fulgurante qui la stupéfiait. Il volait si haut parmi les étoiles qu'elle ne pouvait plus le suivre et restait médusée par la puissance et l'audace de sa pensée. Alors, elle se mettait au piano, pour lui et non plus contre lui, et le nourrissait d'une musique qui pénétrait jusqu'au plus profond de son âme. Il s'ouvrait à la musique comme une fleur au soleil. Des ragtime et des bals musettes aux morceaux classiques qu'elle lui jouait presque par cœur, la transition était rapide. Pourtant, il manifesta un penchant populaire pour Wagner, surtout pour l'ouverture de Tannhäuser, dans laquelle il voyait une personnification de sa propre vie. Il reconnaissait son passé dans le thème de Venusberg, tandis qu'il identifiait Ruth à celui du cœur des pèlerins. Et, dans l'état d'exaltation où cela le mettait, il croyait embrasser d'un seul regard le vaste royaume d'ombre qu'était à ses yeux l'éternel champ de bataille du bien et du mal. Par ses réflexions, il lui arrivait de jeter le doute dans l'esprit de Ruth quant à la justesse de ses conceptions musicales. Mais il ne discutait jamais son chant. Il était toujours en extase devant la divine et mélodieuse pureté de sa voix de soprano. Quel contraste avec les vocalises poussives et les stridences approximatives des ouvrières d'usine, mal nourries et mal exercées, et les vociférations rauques des goualeuses dans les villes portuaires. Elle aimait chanter et jouer pour lui. À la vérité, c'était la première fois qu'elle avait une âme humaine sous sa coupe, et c'était pour elle un délice de la modeler à son idée, car elle croyait sincèrement la modeler et s'y employait avec bienveillance. D'ailleurs, elle se plaisait en sa compagnie. Il ne la rebutait plus. Sa répulsion première lui avait en fait été dictée par la peur de ce qu'elle découvrait en elle-même. Et cette peur était à présent en sourdine, sans s'en rendre compte. Elle estimait avoir un droit de propriété sur lui, et il avait sur elle un effet tonique. Elle étudiait avec assiduité à l'université et la brise marine qu'il faisait souffler sur elle la rafraîchissait, l'aidait à s'extraire de ses livres poussiéreux et lui donnait de la force. De la force. Voilà ce dont elle avait besoin, et il n'en était pas avare. En l'accompagnant au salon ou en l'accueillant à la porte, elle goûtait un peu au sel de la vie, et quand il repartait, elle se replongeait dans ses livres avec une vivacité accrue et un regain d'énergie. Elle avait beau connaître son Browning sur le bout des doigts, elle n'avait jamais vraiment compris que c'était une chose dangereuse de jouer avec les âmes. Plus elle s'intéressait à Martin, et plus elle se passionnait à l'idée de remodeler sa vie. « Prenez M. Butler, » lui dit-elle un après-midi, après les leçons de grammaire et d'arithmétique. « Il n'a pas eu la vie facile, lui non plus. Son père était caissier de banque, mais sa carrière stagnait, et il a fini par mourir de consomption en Arizona, de sorte qu'à sa mort, M. Butler, Charles Butler, s'est retrouvé seul au monde. Il était d'origine australienne, voyez-vous, et n'avait aucune famille en Californie. Il a trouvé de l'embauche dans une imprimerie, il en a souvent parlé devant moi, et au début, il ne gagnait que 3 $ par semaine. Aujourd'hui, il doit en gagner au moins 30 000 par an. Comment s'y est-il pris? Il s'est montré honnête, loyal, industrieux et économe. Il s'est refusé les plaisirs de la jeunesse et s'est serré la ceinture pour mettre de l'argent de côté chaque semaine. Bien sûr, son salaire a bientôt augmenté et plus il augmentait, plus il économisait. Après son travail de la journée, il suivait des cours du soir et il gardait les yeux fixés sur son avenir. À 17 ans, il se faisait déjà de jolis gains comme typographe. Mais il était ambitieux. Il visait une plus haute carrière et il était prêt à tous les sacrifices pour parvenir à son but ultime. Il s'est décidé pour le droit et il est entré au service de mon père comme garçon de bureau. Rendez-vous compte, pour 4 $ par semaine. Mais il avait appris à limiter ses dépenses et il continuait à économiser sur ses 4 $. Elle s'interrompit pour reprendre son souffle et pour jauger la réaction de Martin. Il paraissait fort intéressé par les efforts du jeune M. Butler, mais une certaine perplexité se lisait sur son visage. « C'est sûr que ça devait être pénible pour un gars de son âge, commenta-t-il. 4 $ la semaine, comment il pouvait vivre avec ça? Il ne devait pas se payer beaucoup de fanfreluches. Moi, rien que mon loyer me coûte 5 $ et je vous jure que la pension n'a rien de folichon. » Il a dû mener une vie de chien. Ce qu'il mangeait devait être...
Il faisait lui-même sa cuisine sur un petit poêle à mazout.
Ça devait être pire que ce qu'on trouve dans les cambuses des bateaux de haute mer, et ce n'est pas ragoûtant, croyez-moi.
Mais songez à ce qu'il est devenu, fit-elle avec enthousiasme. Songez à tout ce que ses revenus lui permettent. Ses premières économies lui ont été remboursées au centuple.
Martin la regarda dans les yeux. Je suis prêt à parier que votre monsieur Butler n'a pas souvent le cœur en joie aujourd'hui, tout riche qu'il est, dit-il. À force de manger de la vache enragée dans ses jeunes années, il a dû se raboter l'estomac. Elle baissa les paupières pour fuir son regard. Je vous parie qu'il fait de la dyspepsie, insista-t-il.
Oui, en effet, avoua-t-elle, mais...
Et je parie qu'il est sérieux comme une vieille chouette et qu'il ne pense jamais à se payer du bon temps, malgré ses 30 000 $ par an. Et je parie qu'il n'est pas particulièrement heureux de voir les autres s'en payer, pas vrai?
Elle acquiesça, mais s'empressa de le justifier. C'est parce que ce n'est pas son genre. Il est sobre et sérieux de nature. Il a toujours été ainsi.
Ça, je m'en doute. Pour trouver le moyen d'économiser sur 3 ou 4 $ par semaine, un garçon qui se fait sa popote lui-même sur un réchaud, s'il a passé toutes ses journées à travailler et toutes ses nuits à étudier sans jamais s'amuser, sans même jamais apprendre à s'amuser, ces 30 000 $ sont venus trop tard, pour sûr. Il n'avait aucun mal à imaginer les détails de cette pauvre existence. Quelle étroitesse d'esprit il avait fallu à l'adolescent pour devenir un homme à 30 000 $ l'an. En un instant, la vie entière de Charles Butler avait été circonscrite dans la visée de son télescope mental.
« Vous savez quoi ? » ajouta-t-il.
« Monsieur Butler me fait pitié. Il était trop jeune pour le comprendre, mais il a vendu sa vie pour 30 000 $ qui ne lui profitent même pas. Vrai, 30 000 c'est un joli paquet, mais ça ne remplacera jamais les bonbons et les cacahuètes ou la place de cirque qu'il aurait pu s'offrir avec 10 cents quand il était môme. » C'était justement l'originalité de ce genre de point de vue qui déconcertait Ruth. Non seulement ils étaient nouveaux pour elle et contraires à ses opinions, mais elle y percevait des germes de vérité qui menaçait d'ébranler ses propres convictions. Eût-elle été âgée de 14 ans au lieu de 24, ils eussent pu la changer. Mais elle en avait 24, elle était conservatrice par nature et par éducation, et déjà figée dans le moule qu'il avait formé. La bizarrerie des jugements de Martin la troublait sur le moment, puis, attribuant de nouveau la chose à leur différence sociale, elle n'y pensait plus. Cependant, quoiqu'elle les désapprouvât, la conviction avec laquelle il les énonçait, l'éclat de ses yeux et la gravité de son visage l'émouvaient toujours et l'attiraient vers lui. L'idée que cet homme venu de l'autre versant de la montagne pût avoir des conceptions plus étendues et plus profondes que les siennes ne l'effleurait même pas. Ses vues se limitaient à l'horizon qu'elle connaissait, et les esprits limités n'aperçoivent que les limites des autres. Elle confondait les bornes de son propre champ de vision, qu'elle croyait très vaste, avec les frontières de l'esprit de Martin, et elle rêvait de les aplanir pour l'amener à voir comme elle, s'imaginant élargir son horizon en l'identifiant au sien. « Mais je n'ai pas fini mon histoire, » reprit-elle. « Père a dit qu'il n'avait jamais eu d'employé de bureau aussi travailleur. Monsieur Butler réclamait toujours plus d'ouvrages, il n'était jamais en retard, il arrivait même avant l'heure. Et cela ne l'empêchait pas de trouver le temps d'étudier. Il apprenait la comptabilité, la dactylographie et s'entraînait à la sténo en faisant des dictées la nuit à un chroniqueur judiciaire qui avait besoin d'exercice. Il est rapidement devenu clerc et a montré des qualités inestimables. Père l'appréciait beaucoup, il a tout de suite vu qu'il avait de l'avenir. C'est lui qui l'a incité à faire son droit. Il est devenu avocat et père n'a pas tardé à le prendre comme assistant. C'est un grand homme. Il a plusieurs fois refusé un siège au Sénat et père dit qu'il sera un jour membre de la Cour suprême s'il le veut. Une vie comme celle-là est un exemple pour nous tous. Elle prouve qu'un homme de volonté peut s'élever au-dessus de sa condition. « C'est un grand homme, » reconnut sincèrement Martin. Mais il y avait dans ce récit quelque chose qui heurtait son sens de la beauté et de la vie. Rien ne justifiait à ses yeux les pingreries et les privations de M. Butler. S'il eût fait cela pour l'amour d'une femme ou au nom d'un idéal de beauté, Martin l'eût compris. Le fol amant de Dieu eût été capable de tout pour un baiser, mais non pour 30 000 $ par an. La carrière de Butler ne le satisfaisait pas. Elle avait quelque chose de mesquin, en définitive. 30 000 $ par an représentait un revenu princier, d'accord, mais si la rançon en était la dyspepsie et l'inadaptation au bonheur, ils perdaient toute leur valeur. En essayant d'expliquer cela à Ruth, il ne fit que la choquer et la renforcer dans l'idée qu'un remodelage s'imposait. Elle était prisonnière de cette commune insularité de l'esprit qui contraint les créatures humaines à penser que seules leurs couleurs, leurs credos et leurs politiques sont justes et que les autres créatures humaines, vivant sous d'autres cieux, sont défavorisées par le sort. C'était la même insularité d'esprit qui poussait le juif antique à remercier Dieu de n'être point né femme et qui envoyait aujourd'hui, de par le monde, des légions de missionnaires. Ainsi, Ruth voulait-elle refaçonner cet homme sorti d'un autre moule à l'image des hommes sortis du même que le sien.